Je vais ouvrir avec Marc de Paul aux Thessaloniciens, s'il vous plaît. Il y a encore deux églises que nous sommes appelés à visiter ensemble, puisque dans ces mardis, vous le savez, nous considérons ensemble les épîtres que Paul a écrites à des églises, à des communautés. Et ce soir, nous regardons les épîtres thessaloniciens, je peux les regrouper parce qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Ce sont des épîtres assez courtes en définitive. Et puis, il nous restera encore l'épître aux Corinthiens. On a considéré déjà l'épître aux Romains, les pauvres Paul sont à notre disposition, les Galates, les Philippiens, Colossiens, Éphésiens. En réalité, vous avez bien compris qu'on ne fait pas une étude linéaire et systématique. Mais simplement, par rapport à la thématique générale qui est la nôtre de l'Église, de retirer les grands principes spirituels, les grands fondements qui vont permettre à l'Église de rester toujours l'Église au sens où Jésus la conçoit. Ce sont des grands principes qui garantissent le salut, la vie, la solidité de l'Église. Alors ce soir, au Épître de Saint-Lucien, nous pourrons regarder pour la première et du prochain chapitre premier. Et puis, on va très vite s'apercevoir, je l'ai mis en titre ici, que Thessalonique apparaît très vite en réalité comme une église modèle. Je n'ai pas dit une église parfaite, bien sûr, ça n'existe pas. Et il y a des points sur lesquels, oui, effectivement, Thessalonique apparaît comme une église modèle, vous allez tout de suite comprendre. Et bien sûr, il y a des moments dans la parole où le Seigneur nous enseigne toujours de différentes façons, mais parfois, il peut nous enseigner par des contre-exemples. Il nous montre ce qui ne va pas. Il y a des appels à la repentance, il y a des choses qui doivent être recadrées dans la vie des disciples, dans les églises. Puis à d'autres moments, et bien ici, vous allez voir que la tonalité générale de Paul sur Thessalonique, où c'est question de les rassurer sur plusieurs points qui leur font peur, et puis de les encourager, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon, de fort, et puis on a des enseignements, du coup, à retirer pour nos vies de disciples et pour l'Église que nous sommes, parce que nous sommes l'Église. Au chapitre 1er, on prend les versets 6 à 10, s'il vous plaît. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédonie et de l'Acadie. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acadie, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On va un petit peu plus loin, on descend au chapitre 3. Bien sûr, il va y avoir, comme dans toutes les épîtres, beaucoup d'exhortations éthiques, pratiques. Je veux m'attacher aux grands principes spirituels qui régissent l'Église. Chapitre 3, on peut prendre à partir, je vous l'ai mis ici, les références sont là, les versets 1 à 9. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même, que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, Au milieu de toutes nos calamités, de toutes nos tribulations, là, Paul parle de ce que lui, il est en train de vivre actuellement. Au milieu de toutes nos calamités, nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. On peut même lire le verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » On descend encore un petit peu, chapitre 4. On va juste prendre les versets 9 et 10. Chapitre 4, toujours dans la première épître. Chapitre 4, les versets 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour de même. Si on va un petit peu plus loin encore dans la deuxième épître, on va s'apercevoir que la tonalité est la même. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, on prend juste les versets 3 et 4. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ces passages, je pense, un excellent résumé de l'état spirituel de l'Église de Thessalonique. C'est une église qui est fidèle, c'est une église qui est réellement qualitative, une église qui est persévérante, courageuse. Quand on considère, on s'éclaire à la lumière de ce qu'on a lu, même si on se penche un petit peu plus sur l'histoire de Thessalonique, vous apercevrez à la lecture de Acte 17 que Thessalonique n'a pas été une ville simple. Et au moment où l'Église est constituée, il n'y a toujours rien de simple. Recevant, chapitre 1er, verset 6, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Chapitre 2, verset 14, ça on ne l'a pas lu, je vous l'ai remis sur l'écran ici. Vous avez aussi souffert de la part de vos propres compatriotes, de la part des Juifs. On s'aperçoit que c'est une Église qui est née et qui continue à évoluer dans l'opposition. Et malgré l'opposition, cette église, elle est née et elle évolue dans l'opposition. Et malgré l'opposition, et connaissant leur situation, préoccupés, Paul le dit, craignant que du coup le tentateur vous ait vraiment atteint, nous avons envoyé Timothée dans notre préoccupation profonde. Et préoccupé par leur foi, il envoie Timothée, on l'a lu. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, la foi, et de votre amour. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont plus importantes dans une église que sa qualité de foi et sa qualité d'amour. Parce que la foi, c'est exactement ce qui nous relie. C'est par la foi, c'est le grand cri de toute la Bible depuis Abraham. C'est par la foi nous sommes reliés à Dieu par la foi. Et il est bien clair dans différents épîtres, et même notamment dans l'ensemble de la parole, que le juste, nous avons été justifiés, le juste vivra par sa foi, et vivra de sa foi. Et cette Église n'a pas la foi parce qu'elle est dans un contexte, parce qu'elle est dans des situations familiales, ecclésiales, vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur dans le monde. Elle n'est pas dans une situation facile qui lui permettrait d'avoir une foi forte. Non, la foi, elle n'est pas faite pour le possible. On n'a pas besoin de la foi quand tout va bien. On n'a pas besoin de la foi s'il n'y a pas de difficulté. On n'a pas besoin de la foi si on n'a pas d'opposition. On n'a pas besoin de foi si on n'est pas persécuté. Et quand tout va bien dans une communauté, quand tout va bien dans ma famille, quand tout va bien sur mon travail, quand tout va bien à droite, à gauche, excusez-moi, ben, puisque tout va bien, je n'ai pas besoin d'amour. L'amour, la foi est faite pour l'impossible. Et l'amour est fait pour les gens, excusez-moi, l'amour de Dieu, on parle d'agapé. Hein, l'amour de Dieu, mais il est fait pour les gens qui ne sont pas aimables. Et là, ce sont les deux grands points que l'apôtre Paul fait ressortir. Donc oui, ce sont des chrétiens à Thessalonique qui ont eu et qui ont encore besoin de résister à l'oppression. Et la tonalité générale de ces épîtres, c'est que Paul va à la fois les rassurer pour leur dire « Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez, vous êtes nés dans les tribulations et que bien que vous soyez au Seigneur, c'est à cela, chapitre 3, verset 3, c'est à cela que nous sommes destinés, pas au sens où on va galérer non-stop 24-24 tous les jours de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Le Seigneur a promis de jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Et on sait pertinemment qu'il y a des moments difficiles, à certains moments ou à d'autres, et que régulièrement, oui, je crois avoir compris en lisant ce que Jésus dit, que c'est logique qu'un disciple soit sur le chemin de son maître. L'Église est en fait de disciples. Les disciples ne sont jamais sur un autre chemin que ceux de leur maître. Donc en réalité, est-ce que c'est problématique? Mais ces églises, qui étaient quand même des jeunes églises, qui étaient constituées depuis pas si longtemps que ça, c'était surprenant pour eux quand ils ont vu, alors qu'ils étaient chrétiens, et nous aussi, par moments, bien aimés. Combien de fois on s'est dit, mais le Seigneur, je t'appartiens, mais c'est quoi encore cette pression? C'est quoi cette nouvelle épreuve? Et là, on m'a rejeté, là, j'ai été incompris, là, on m'a faussement accusé, là, on m'a méprisé. Là, pardonnez-moi, mais on m'a encore mis de compte verbalement. Là, je suis passé par une tempête. Là, j'ai un désert. J'ai une période de manque. C'est quoi cette fournaise? C'est quoi ces situations? Et l'apôtre Paul dit clairement, mais ne vous en étonnez pas. Si on prend d'autres textes, vous voyez que là, il dit bien, vous aussi, vous avez aussi souffert de la part. C'est pas pour les consoler, parce qu'en fait, on ne saurait jamais des difficultés ou des épreuves des autres, mais l'apôtre Paul est en train de montrer qu'il dit, mais ça, c'est le lot, c'est normal. Je sais bien que quand on passe par des difficultés, peu importe leur forme circonstancielle, je sais très bien qu'on a toujours l'impression que Dieu est le grand absent de la situation, on a toujours l'impression qu'on est les seuls qui passons par là et que les autres ne peuvent pas nous comprendre, mais vous savez, si rien que ce soir, je faisais lever la main et disais, qui a des problèmes avec ses enfants dans la salle, c'est même pas la peine que je fasse lever la main. Qui a des membres inconvertis dans un... voilà. Qui a été maltraité sur son lieu de travail, incompris, machin, etc. Mépris. Tout le monde lèverait la main. C'est pas que les douleurs des uns et des autres, on se console pas avec les douleurs des autres. Hein. On se console pas avec les plus gros problèmes des autres. Ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est simplement, l'apôtre Paul est en train de les rassurer, de leur dire, en d'autres mots, attendez, vous êtes disciples de Jésus. Vous êtes sur les chemins de votre maître. Donc, ne soyez pas surpris. Pierre le dit aussi. Si vous prenez, pour ceux qui notent, vous relirez chez vous 1 Pierre 4:12, quand Pierre écrit à ceux qui sont dispersés, il leur dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Non, l'épreuve est normale, la fournaise, c'est normal. De la première à la dernière page, tout est clair. Mais ce qui est important, et ce que Paul souligne ici, c'est que leur foi, parce que la foi est faite pour les fournaises, la foi est faite pour l'injustice, pour les difficultés, la foi est faite pour l'impossible, c'est que leur foi, elle tient bon. Alors on peut toujours progresser dans la foi. On a lu au chapitre 3, verset 10, j'ai hâte de venir vous voir, parce que je pourrais compléter un peu ce qui manque à votre foi. On peut toujours consolider, on peut toujours affermir, on peut toujours progresser. Mais on voit que cette église, elle apparaît comme une église modèle, non pas parfaite, mais modèle au sens où elle a une foi qui est vraiment enracinée et malgré les difficultés, malgré les tribulations, eh bien, merci Seigneur, on voit qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent bon non seulement dans la foi, mais dans l'amour. Vous savez, bien aimé, j'aime souvent le dire, de la première à la dernière page de l'amour, c'est une succession de problèmes. Si vous enlevez les pages de la Bible, vous arrachez les pages de Bible, dans lesquels il y a un mot MOTS ou un mot ou les mots MOAX qui ne vous conviennent pas, à part le premier dernier verset, il vous reste priori. Parce que de toute façon, l'œuvre de Dieu, c'est ainsi. Regardez bien la parole, regardez bien même l'histoire de l'Église. L'œuvre de Dieu, elle s'est toujours faite dans les combats. On aime bien les actes des apôtres. On aime bien les récits des évangiles. On aime bien les histoires. On aime bien. Mais vous savez, selon notre degré, notre profondeur de lecture, on s'aperçoit que dans les actes des apôtres, oui, que de choses extraordinaires ont-ils vécu. On est bien d'accord. Mais on ne va pas se mentir. Quels combats ont-ils pu mener et quels prix ont-ils pu payer? Oui, non?
Oui, oui.
Ah, oui. L'œuvre de Dieu, bien-aimée, elle s'est toujours faite dans les combats, toujours à notre mesure, jamais au-delà de nos forces, avec un Dieu qui nous donne toujours des ressources et des solutions et des victoires, au-delà de la puissance des combats, gloire à son nom, c'est une évidence, mais l'œuvre de Dieu s'est toujours faite dans les combats, et de l'opposition sous différentes formes, à différents niveaux, elle a toujours eu. L'apôtre Paul, c'est ça la tonalité de ses vieux épîtres, parler des petits points où il veut vraiment les emmener un peu plus loin, mais de façon générale, il leur dit, mais vous êtes sur la bonne voie, et vous êtes appelés maintenant à persévérer, vous êtes, et qu'est-ce que Thessalonique, pour nous, bien aimé, est un modèle, pas une église parfaite, je le redis, mais une église modèle. Que personne ici, je vous l'ai dit, ne soit ébranlé, c'est quand vous secouez fortement, c'est quand, et là, il est question de la foi, quand la foi est fortement secoué à cause de ce qui se passe dans les circonstances, que personne ne soit secoué, que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, l'insis, il signifie littéralement oppression, persécution, souffrance. Oui, effectivement, Thessalonique est une église qui est née dans la tribulation et qui continue d'évoluer dans un contexte qui est extrêmement défavorable. Alors, cette église, dans quel domaine, pour aller un peu plus loin, dans quel domaine est-ce qu'elle est une église modèle? Et puis, ça peut être aussi, ça doit être aussi pour chaque élu de vie, pour l'église, pour chaque élu, ça doit être aussi des sujets de prière, et ce sont aussi des objectifs. Dans quel domaine est-ce que l'église apparaît comme une église modèle? Ben, premièrement, c'est que les gens qui font partie, les gens qui se joignent à l'église de Thessalonique, excusez-moi, ce n'est pas des sympathisants, je n'ai rien contre les sympathisants, je les aime, le Seigneur aussi, hein. Mais ce sont des gens, ce ne sont pas des adhérents, ce ne sont pas des gens qui sont venus parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce que ici les gens étaient gentils, etc., mais parce que le café était bon après la gaffe, je ne sais pas quoi. Ce qui a fait du bruit dans l'Achaïe et dans la Macédoine, c'est-à-dire dans les régions alentours, parce que Thessalonique a fait parler d'elle, contrairement à Sardes ou à d'autres églises où, malheureusement, à part leur programme, la poudre aux yeux, les activités, l'activisme, le faire, etc., etc., avait fait beaucoup parler d'elle, mais en réalité, il avait, à l'intérieur, c'était, excusez-moi, quand on grattait un petit peu, en dessous, c'était creux, mais à Thessalonique, vous pouvez gratter un petit peu la surface, et en dessous, il y a de l'or massif, hein, c'est ça que ça veut dire. Et ce sont en réalité des bien-aimés, des frères, des sœurs, qui ont été les imitateurs du Seigneur, donc ils sont dans une vie de sanctification, ils ont compris que le but de leur vie, c'est d'avancer toujours davantage sur ce chemin de sanctification, c'est-à-dire d'aller vers la ressemblance de Jésus, et puis tout ça, ce n'est possible que parce qu'à la base, il y a eu des conversions extrêmement solides. On raconte à votre sujet dans la région. Disons, à Thessalonique, ça, bizarre. Les gens, quand ils se sont convertis à Dieu, il y a des changements dans leur vie, des changements radicaux. La conversion, pas l'adhésion, la conversion. Je suis dans une mauvaise voie, la parole et l'esprit me percutent, je suis convaincu de péché. Il y a cet appel de Dieu en moi et cette conversion, c'est ce demi-tour à 180 degrés, radical, déterminé. Et je tourne le dos à mon ancienne vie, je me convertis et je vais vers cette vie nouvelle et je progresse dans cette vie nouvelle. Et c'est dans ces domaines de conversion, de témoignage, de foi, d'amour, de fidélité, de saine doctrine, de persévérance que effectivement l'Église de Thessalonique fait parler d'elle, pas par des programmes ou d'activité, mais par leur vie. C'est ce qu'ils sont, pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont qui interpelle les autres églises autour d'elles et qui font dire que oui, oui, à Thessalonique, il y a un témoignage de conversion réelle, il y a du solide, il y a de l'authenticité dans leur conversion à Christ. On raconte à votre sujet comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Le changement à Thessalonique, visiblement, avait fait beaucoup de bruit, pas seulement leur conversion, mais aussi leur changement radical, leur nouvelle façon de vivre. Waouh, Thessalonique, les gens, ils ont vraiment changé. À Thessalonique, il y a une façon de vivre. À Thessalonique, Thessalonique était réputée pour sa foi et pour son amour pour Dieu et l'amour aussi, on va le voir, des uns pour les autres. On a lu au verset 8, chapitre 1er, verset 8. La parole du Seigneur a retenti de chez vous, jusque dans la Macédoine, jusque dans la Calée. Tu prendrais une carte et vous apercevrez qu'il y a des régions à cet endroit-là qui sont plus grandes que le bassin marseillais. Hein. C'était vraiment des régions importantes. Et votre foi en Dieu s'est fait connaître tout lieu, de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Évidemment, le Seigneur n'a pas dire ça à toutes les églises. Selon les périodes, c'était plus ou moins compliqué selon les églises. On en a étudié beaucoup. Quand on verra les Corinthiens, on verra que c'est pas du tout ça. Mais on s'aperçoit ici, merci Seigneur, que leur réputation, leur témoignage vécu avait eu un impact dans la région. En d'autres termes, l'Église était connue. Mais elle était connue dans le bon sens du terme. Merci Seigneur. Et puis, donc, conversion solide et authentique, sanctification, témoignage, pas parler, mais le témoignage vécu d'abord, de réputation, impact dans la région, la foi, la fidélité dans les persécutions, malgré les tribulations. Et puis, ce qui est quand même aussi frappant, ce qui interpelle au chapitre 4, c'est ce verset 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, agapé, vous n'avez pas besoin que vous en écrive. Sérieusement. Mais dans toutes les églises qu'on connaît, il y a toujours quelque chose à dire sur les uns, les autres, l'amour, l'encouragement, son portée. Il y a toujours. Et Paul, et pourtant Paul, c'est pas n'importe qui. Je dirais, il en aurait bien plus que n'importe quel autre pasteur pour emmener les chrétiens encore plus loin dans le domaine de l'amour fraternel, dans l'amour, dans le domaine de l'agapé. Je dirais, Paul, il en connaissait bien plus que moi ou n'importe quel autre sur, excusez-moi, j'allais sur ce rayon, cette façon de parler. Sur ce sujet, il avait largement de quoi. C'est Paul qui dit, ah mais en ce qui concerne l'amour fraternel, vous avez pas besoin que je vous dise quoi que ce soit, vous avez vous-même appris à vous aimer, vous avez appris de Dieu. Ce qui veut dire que, puisque vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer, à taper, à l'élone les uns les autres, tout ce qu'on a vu sur les différents dimanches, dans la relation les uns les autres, vous avez vous-même de Dieu. Mais pour apprendre une qualité d'amour, une qualité de relation les uns avec les autres, pour l'apprendre directement de Dieu, dites-moi, ces chrétiens, ces frères et sœurs à Thessalonique, ils devaient avoir une sacrée communion avec Dieu à la maison. Est-ce que ça ne tombe pas du cul tout cuit le lundi matin comme ça par enchantement? C'est que ce sont des gens qui sont vraiment, dès le démarrage, une conversion solide et authentique, et tout de suite dans le cœur, il y a quelque chose, c'est de l'or massif qui vient s'installer ici. Et ensuite, il y a nécessairement une communion, une relation de qualité avec Dieu, il y a une intimité, il y a quelque chose pour que, comme dira Paul aux Romains, l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est comme ça que l'amour de Dieu vient, parce que la prédication elle a son utilité, mais l'amour de Dieu vient dans mon cœur, pas par ma prédication, mais par le Saint-Esprit. vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et je ne peux, verset 10, que vous encourager à abonder toujours plus dans cet amour, à abonder, à ce que l'âme toujours plus loin. Mais pour qu'ils puissent leur dire ça, ça peut les aimer. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ils avaient vraiment la vie avec lui qu'ils aimaient avoir. Et puis, conséquence directe de son soutien mutuel, exhortez-vous, ça on ne l'a pas lu, mais je vous le mets ici. Exhortez-vous, c'est-à-dire dans la pensée, encouragez-vous réciproquement à l'aider les uns les autres. Édifiez-vous, c'est-à-dire par des paroles. Construisez-vous les uns les autres par des paroles d'encouragement à l'aider de nouveau les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc en définitive, il est simplement en train de les encourager à continuer sur le chemin sur lequel ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ils le sont, tiens, et par conséquent, il faut simplement continuer. Moi, je trouve que c'est un bel exemple et je trouve ça tellement encourageant. Et la seule chose, c'est que, effectivement, c'est que perturbés par leurs tribulations, parce qu'ils savent que c'est une jeune église et que ça part vraiment fort dans la région aussi, que l'Église est soumise à toutes sortes de pressions, comme je vous l'ai dit, il envoie Timothée, et Timothée, en revenant, leur dit, Paul, Sylvain, vous inquiétez pas, à Thessalonique, les frères et sœurs, ils sont comme ça, il n'y a rien qui les éloigne. Puis dans l'Église, ils s'aiment, il y a une atmosphère, l'agapé de Dieu, elle est répandue, elle est là, elle est présente, et Timothée nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, et de votre amour, et je le vois que vous demeurez ferme dans le Seigneur, chapitre 3, verset 9, on l'a lu, c'est marqué là-haut. Quelles actions de grâce ne pouvons-nous pas rendre à Dieu à votre sujet? On retrouve évidemment la même tonalité dans la deuxième épître, on l'a vu. Votre foi fait de grands progrès, l'amour de vous tous, nous, c'est chacun et tous. L'amour de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et je vois que votre persévérance et votre foi au milieu des persécutions et des tribulations progressent aussi dans ce que vous avez à supporter. Donc, il y a réellement des encouragements à persévérer, à continuer dans la sanctification, dans une conduite donc qui plaise à Dieu, et puis à avancer dans cette voie excellente. De progrès en progrès, chapitre 4, les versets 1 à 8. De bon, ça, je ne vous l'ai pas fait lire, mais de progrès en progrès. C'est là ce que vous faites. Nous vous exhortons à abonder toujours plus dans cet amour. Et puis aussi, un appel à la vigilance, à veiller sur soi, à rester toujours prêt. Il y aura quelques pensées au niveau de l'eschatologie, au niveau des signes de la fin du temps, mais ça, c'est un sujet à part entière. Voilà, j'ai terminé ici. Et une église qui est appelée à persévérer, à rester ferme, c'est mon dernier point. Et qui va recevoir toutes sortes d'encouragements éthiques et pratiques. Ça, je ne l'aborde pas. Et surtout, cette partie qu'on n'a pas lue dans Thessaloniciens 5-6, veillons et soyons sobres. Nepho en grec signifie concentré en esprit. Nepho, c'est un verbe qu'on emploie pour quelqu'un qui ne doit surtout pas s'endormir. Surtout pas se laisser distraire. Quand vous avez des gens qui se laissent aller, qui sont distraits, accaparés par tellement de choses et pas suffisamment centrés sur les réalités spirituelles, des gens qui, spirituellement parlant, ont tendance un peu à piquer du nez, excusez-moi l'expression, ça arrive à tout le monde. Je leur dis, réveillez-vous. Faites attention, soyez vigilants, ressaisissez. Non, il faut rectifier vos relations, il faut vous enraciner dans la foi. Prenez soin de votre relation avec vos frères, prenez soin de votre communion avec Dieu. Il y a des tas de choses qu'on peut dire. Mais à ceux qui sont déjà éveillés, à ceux qui sont déjà sur les rails, on les encourage à continuer, et à ceux qui sont endormis, on les dit, réveille-toi, toi qui dors. Christ va t'éclairer, voilà, je t'avance le mort. Christ t'éclairera. Alors, puis réveille-toi. Il y a des gens qui sont éveillés, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que nous sommes tous des sentinelles, on est tous appelés à veiller. Les gens qui sont éveillés, qui sont réveillés, on leur dit, surtout, faites bien attention de ne pas parler. Surtout, faire bien attention de ne pas te laisser distraire. Soyez concentrés, soyez sobres, sobres. Ce n'est pas au style, oui, faites attention, pas trop de télé, pas trop de ceci, pas trop de machin. Non, bon, même si c'est vrai. Mais là, c'est méfaux. Concentrez en esprit. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas votre attention être accaparée et se détourner de l'essentiel. Vous savez l'essentiel, persévérez, développez-le, gardez-le comme un précieux trésor. Ne vous laissez pas distraire. Et surtout, ne vous engagez pas. Parce que, évidemment, comme dans toutes les églises, en plus des persécutions, en plus des difficultés à différents niveaux, c'est inévitable, doivent venir, les apôtres le disent quasiment, mettent en garde, quasiment, chaque église, chaque épître, de différentes façons, les perturbateurs, c'est-à-dire les faux docteurs, viennent nécessairement. C'est obligé. Donc, trop tard, à partir du moment où quelqu'un est dans la foi, le doute va faire des tentatives d'infection. À partir du moment où quelqu'un est debout, il y aura des circonstances qui seront là pour essayer de le faire. À partir du moment où quelqu'un se tient dans la sainteté, il va avoir des tentations qui, à partir du moment où quelqu'un est ferme dans la foi, peut-être, alors que tu vas dire, ah mais pourtant je comprends pas, je suis ferme dans ma foi, je prends soin de ma vie avec Dieu, et je sens que l'épreuve s'intensifie. Oui, parce que l'épreuve vient tester la foi, parce que la tentation vient tester la sainteté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc viennent des perturbateurs à partir du moment où tu es bien dans la parole de Dieu. Une église est enracinée dans la saine doctrine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une épreuve, tôt ou tard, là où il y a la foi, vient le doute. Là où il y a la sainteté, viennent des tentations. Là où il y a la fermeté, viennent des épreuves plus fortes. Et là où il y a de la saine doctrine, où l'église est bien dans la parole de Dieu et qu'elle maîtrise bien les grands sujets théologiques, tout ce qu'on a vu ensemble, viennent nécessairement les faux docteurs. Et des faux docteurs, non seulement doivent venir, ici, ailleurs, n'importe où, à Thessalonique, et ils sont venus parce que, quand on considère bien, si vous relisez bien les deux épîtres, pareil, vous apercevrez que dans la deuxième épître, c'est là que Paul dit, je vous demande de ne pas vous laisser facilement ébranler, secouer, c'est-à-dire vous perdez vos certitudes dans votre bon sens spirituel, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens spirituel, de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous. Et Paul conclut la deuxième, enfin, dans la deuxième épître, c'est pas la conclusion, mais il va insister, je vous salue, moi, Paul, ma propre main. C'est-à-dire qu'excusez-moi l'expression, il y a certainement des petits loulous. Quand ils ont vu que Thessalonique, c'était vraiment une bonne église, ils ont dû se faire passer pour Paul, ou pour Sylvain, ou Timothée, ou je ne sais pas quel apôtre, mais probablement, il y a dû y avoir des fausses lettres, et on sait que dans les premiers temps qui ont suivi l'Église primitive, une fois que le canon biblique a été clôturé, passé en 95-96, Jean sur l'île de Patmos, avec la rédaction de l'Apocalypse, ensuite, dès le IIe siècle, il y a eu, bien aimé, une profusion des pseudo-inspirés. On a eu l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Marie, le machin, etc. Il y en a eu plusieurs dizaines. Et il n'est pas impossible que dans toute cette... plus tard, mais déjà, même au 1er siècle, qu'il y ait déjà eu des tentatives d'imitation et de séduction. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur dit plusieurs fois, on l'a lu par les deux églises. Souvenez-vous quand j'étais au milieu de vous, je vous disais que. Souvenez-vous quand j'étais au milieu de vous, je vous avais enseigné que. Ce qui doit bien aimer, je termine avec ça, absolument pas faire peur, mais simplement nous le savons. Là où il y a du vrai, nécessairement le faux fera des tentatives d'incursion. C'est normal, ça fait partie du combat spirituel. Et merci Seigneur de ce que cette Église, merci. Elle a dû quand même avoir, de par les tribulations, de par des tentatives d'incursion de faux docteurs, des imitations de lettres probables, je dis probables de l'apôtre Paul ou autre, et bien effectivement, malgré cela, on s'aperçoit que c'est quand même une église modèle, c'est une bonne église qui a su rester ferme, une église dans laquelle la foi est solide, c'est l'essentiel, et où l'amour de Dieu agapé est répandu dans les cœurs, et font vraiment de l'Église une Église modèle, parce que le signe de la maturité spirituelle, le signe de la maturité spirituelle. C'est l'amour agapé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'agapé les uns pour les autres. Le signe de la maturité, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ensuite, il y a aussi nécessairement la foi, puisque c'est notre mode de vie. Voilà un petit peu pour résumer cette église de Thessalonique. Et puis, j'ai tenu à vous partager ça avant le temps de prière. Il y a bien sûr les sujets qui sont sur les cœurs des uns et des autres, mais on a aussi des... Du coup, par ce biais-là, cette église modèle tend sous nos yeux. On a aussi des sujets de prière, et bien de la donner. Que lorsque les gens viennent ici, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Il y a des réelles convictions dans le cœur. Et que ces convictions, elles arrivent réellement, des conversions authentiques, avec un changement radical de vie à 180 degrés. Une fois qu'une personne est au Seigneur, elle continue de progresser, d'avancer, comme en réalité vous le faites, la sanctification, le témoignage vécu d'une personne, d'une église, son impact dans son entourage, c'est valable pour l'église, c'est valable pour vous, pour moi, sa foi, sa fidélité, prions pour la foi les uns des autres, que chacun tienne bon, l'amour paternel, le soutien mutuel, etc., etc. Et aussi, de garder toujours le cap dans la saine doctrine. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà l'Église que le Seigneur met sous nos yeux aussi, qui doit être pour nous un sujet d'encouragement. Amen. On va se recueillir.